Rabbi Eliezer, il dit, Mégoulé, on l'amène dévoilé. La Gemara explique pourquoi. Il dit, pour montrer à tout le monde que la mitzvah de Mila, c'est une mitzvah qui repousse le Shabbat. Comme c'est une mitzvah qui repousse le Shabbat, Julien a des mouchoirs ici, si tu veux. Comme c'est une mitzvah qui repousse le Shabbat, donc il n'y a pas de problème. Donc selon Rabbi Eliezer, même un marchir mitzvah, on a le droit de se déplacer. Alors, ça c'est important d'expliquer. La définition de marchir mitzvah. Marchir mitzvah, ça veut dire que c'est quelque chose qui rend apte une mitzvah. C'est-à-dire quelque chose qui va m'aider à faire la mitzvah. Par exemple, d'accord ? On va prendre l'exemple de la souka. Il y a une mitzvah de manger dans la souka. Il n'y a pas de mitzvah de construire la souka. Il n'y a pas de mitzvah de construire la souka. Pas de mitzvah. Bien sûr, c'est bien, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de mitzvah de construire la souka. La mitzvah, c'est de manger dans la souka. Seulement quoi ? Construire la souka, ça s'appelle un marchir mitzvah. Ça veut dire ce qui va rendre possible la mitzvah. La même chose ici. La mila. Le couteau, c'est pas la mitzvah. Le couteau, c'est pas la mitzvah. Le couteau, c'est marchir mitzvah. C'est ce qui va rendre possible la mitzvah. Parce que sans le couteau, on peut pas faire la mitzvah. Mais la mitzvah, c'est pas le couteau. La mitzvah, c'est de couper avec le couteau. Mm-hmm. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer ? Rabbi Eliezer, il nous dit que pendant Shabbat, apparemment, il dit que c'est permis de déplacer même le marchir mitzvah. Et on peut le... Donc, Mevio be Shabbat Megoulé, on l'amène pendant Shabbat Megoulé quand il est dévoilé, pour montrer que la mitzvah de Mila repousse le Shabbat. Uba Sakana, quand c'est un moment de Sakana. Alors, c'est quoi Sakana? Sakana, ça veut dire un danger. Quel danger on peut avoir? Mara explique qu'il y avait un moment dans lequel les nations ont décrété que le peuple juif n'ont pas le droit de faire la Mila. Si, vous allez voir quelqu'un qui va se balader dehors avec un scalpel de Moël, c'est chaud. Ça
oui.
Uba Sakana, et c'est, on a déjà eu ça malheureusement dans le peuple juif. Les goyim, ils ont compris que le secret du peuple juif, c'était avec les mitzvot, donc ils les ont empêchés de faire la mila.
Hanouka déjà.
D'accord, Hanouka, exactement. On a eu d'autres périodes aussi, on a eu plusieurs périodes malheureusement, dans lesquelles on a interdit. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les chachamim ? Ils ont dit que dans ce cas-là, bien entendu, les gens faisaient quand même la mila. Ils faisaient la mila, d'accord ? Ils essayaient de se cacher au maximum. Donc, mes vio, mes shabbat, là dans ce basakana, pardon, mes chaseu al piedim, on le recouvre, d'accord ? Al piedim avec des témoins. Ça veut dire quoi avec des témoins ? Ça veut dire avec des témoins qui vont témoigner que j'ai amené le couteau pour la Mila, d'accord, et qu'on va pas le soupçonner qu'il a amené autre chose. C'est-à-dire que quand il vient dans la salle avec sa mallette, il y a deux personnes qui viennent avec lui qui disent oui, on l'a vu, il a porté que le couteau. Pour pas que les gens vont penser à me dire ah oui, il a porté le couteau et d'autres choses.
Et son album d'accord. De Fanny.
Période de Marabi Lézère.
Autre en chose. Fait, il peut pas mettre, s'il vient avec la mallette, il n'y a que le couteau dedans. C'est-à-dire si dedans il veut mettre du sel et du poivre.
Là pour l'instant, on n'a parlé que du couteau. Le Kelly. Veod Amar Rabbi Eliezer. Autre chose, Rabbi Eliezer a dit. Kortim et Tim Lassat Pechamin. D'accord ? On a le droit, si on n'a pas de couteau pour faire la Mila, on a le droit de couper du bois pendant Shabbat pour en faire Pechamin du charbon. Parce qu'on peut couper aussi avec le charbon. Charbon qui est fin. D'accord ? On peut couper aussi. On peut couper.
Velasot Kelly Barzel.
Velasot Kelly Barzel. Donc, Lassat Pechamin.
Attendez. Le charbon, c'est pour le.
Alors, Lassat Men Pechamin. Velasot Kelly Barzel. Pour faire aussi. Kelly Barzel, un ustensile en fer. Donc il y a deux hypothèses possibles. Ou bien on a un charbon, on a du bois qui est... On pouvait couper avec le bois, il y a des gens qui savaient le faire. Deuxième hypothèse, c'est le charbon, j'en fais rien avec. Donc je ne veux pas faire du charbon, je prends simplement du bois, je vais chauffer. Et avec le feu que je veux faire, je vais prendre un ustensile en fer et je vais l'aiguiser. Je vais l'aiguiser, je vais le faire... bon, je vais faire un couteau, quoi.
Mais tu fais ça quand ?
Pendant Shabbat.
Ah, pendant Shabbat.
Pendant Shabbat. Là, c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. Clairement, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, et l'alakha va être comme lui, va nous donner un autre principe, et vous allez voir que Rabbi Akiva va être en marloquette avec Rabbi Eliezer. Kalama Rabbi Akiva dit comme ça. Kol mlacha she'efshar la sota amera Shabbat, tout travail qu'on pouvait faire depuis la veille du Shabbat, et nadochat à Shabbat, elle ne repousse pas le Shabbat. Donc c'est ce que je viens de dire, ça rentre dans la catégorie de marchir mitzvah. She'efshar la sota amera Shabbat, mais toute mitzvah qu'on ne peut pas faire, donc en rapport à la caméra, par exemple, amenez le couteau. C'est une melacha d'amener le couteau dans le domaine public. Est-ce que tu pouvais le faire avant Shabbat ? Oui. Donc, elle repousse pas le Shabbat. Mais, Veshevchar la sota be Shabbat, si on pouvait la faire pendant Shabbat, Veshevchar la sota be Rav Shabbat, ce qu'on ne pouvait pas faire la veille de Shabbat, par exemple, la Mila. La Mila, on ne pouvait pas la faire la veille de Shabbat. On va la faire au huitième jour. Docha et ta Shabbat, ça repousse le Shabbat. Et là, pardon, et la lacha est comme Rabbi Akiva. Quand la lacha est comme Rabbi Akiva, il faut savoir que ce principe-là de Rabbi Akiva, c'est un principe qui a été accepté comme l'alakha, qui a été accepté en tant que l'alakha, pardon, également dans le cas de Korban Pessah. Vous savez que le sacrifice du Pessah repousse le Shabbat. D'accord ? si le 14 tombe la veille de Pessah, même dans le calendrier ça arrive, ça repousse le Shabbat. Mais il y a le même principe de Rabbi Akiva, que ça peut repousser que pour les choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, faire la Shrida, ça ne pouvait pas faire avant, je peux le faire le jour même. Mais pour les choses qu'on pouvait faire avant, par exemple déplacer le mouton dans le domaine public, ça tu pouvais le faire avant. Vous pouvez l'amener dans l'enceinte du Beit HaMikdash avant. Ça on peut pas. Donc il y avait on s'organisait au Beit HaMikdash, d'accord. Bon, il y avait des endroits dans lesquels chacun pouvait laisser son animal, etc. depuis avant Shabbat. Parce que c'est interdit. Tu pouvais le faire avant Shabbat. Il n'y a aucune raison de le déplacer dans Jérusalem. Osim, Kol Sorkemila, et Shabbat. Alors, maintenant on parle des besoins de la Mila. Osim, Kol Sorkemila, et Shabbat. On peut faire tous les besoins. Donc maintenant, on va parler de la Mila, effective. Vous vous rappelez, on a dit que tous les besoins de la Mila, on peut le faire pendant Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Shabbat? Alors, vous allez voir quelqu'un, parce qu'on pourrait peut-être penser que je peux simplement faire la Mila, mais après, tous les pansements et tout ce qu'il y a derrière, je fais le strict minimum. D'accord? Et qu'on fera le... Et qu'on s'arrangera pour conclure ça pendant... Après la sortie de Shabbat. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non, ça marche pas comme ça.
Vous avez ce qu'on a dit, en fait, le couteau, on ne peut pas l'amener.
Hein. Non, il faut l'amener avant Shabbat.
D'accord. Même ouais. Si c'est dévoilé. On
doit... Même si c'est dévoilé. La Rahan n'est pas comme ça, voilà, exactement. Maintenant, si on l'a pas fait, si on l'a pas fait, il y a des techniques. Des techniques, par exemple, par un goy, etc. Mais c'est compliqué. Si on l'a pas fait, il faut demander à un rat. Tout le monde, je crois, non, il y a des grandes marloquettes, comment on peut faire. D'accord. Parce que la question, c'est... Après, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que c'est le couteau qui doit aller vers l'enfant ou l'enfant qui doit aller vers le couteau? Il y en a qui pensent que c'est moins grave de demander à un goy de porter l'enfant et de l'amener à l'endroit du couteau que de demander à un goy de prendre le couteau et de l'amener chez l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est la mitzvah, alors que le couteau, c'est seulement un marchir mitzvah. Bon, ouais. C'est compliqué, il faut demander à un raf si ça arrive, je préserve. Normalement, ça arrive pas. Les moalim sont organisés.
Ouais, une chance sur 7, hein. Ah oui, d'oublier, oui.
Non, ça arrive pas. Et on sait, quand on fait une mila avant Shabbat, on amène des affaires avant. Donc aussi, quand on fait mila avant Shabbat, on peut faire... Non, mais pourquoi la Mishnah en parle? Parce que ça peut arriver quand même. Quand, par exemple, il y a un rouf dans la ville, donc le moelle, il comptait sur le rouf, et que pendant le Shabbat, on apprend que le rouf a été cassé. Quand le fil du rouf a été cassé, donc on ne peut plus se déplacer. Donc là, c'est un problème qui vient. Donc là, dans ce cas-là, il y a des techniques. Aussi, quand sur Kemila et Shabbat, on peut faire donc tous les besoins de la Mila pendant Shabbat. Moalim. Donc, bien entendu, on fait la Mila. Donc la Mila, ça c'est clair que c'est permis. Donc Moalim, littéralement, comme il dit, ça veut dire couper... le prébus, ça c'est la Mila, ou for in ça veut dire sucer le sang, d'accord, et, non pardon, for in ça veut oui, dire bon. Ça veut dire retrousser, d'accord,
non, oui, enfin,
ça c'est motzetim, je me suis trompé, motzetim c'est sucer le sang, motzet en hébreu c'est une sucette, ou même en hébreu moderne, vous le dites, si un jour vous allez en pharmacie, vous demandez une sucette, pour un bébé, vous demandez motzet, même une sucette à manger, motzet ça s'appelle,
d'accord. C'est rigolo.
Donc, motetim. Alors, porin, c'est pas ça. Porin, c'est, on enlève la...
Retrousser.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a une fine peau qui se trouve en dessous de la, donc en dessous du prépuce qu'on a enlevé. Cette fine peau-là, d'accord? On l'a, donc cette fine peau-là, on la retrousse. Ou motetim, bon, ça c'est le boulot des moalim, hein. Pour ceux qui aiment voir les villas.
C'est ce que les arabes n'ont pas, ça.
Oui, les arabes n'ont pas exactement. Ouais, c'est vrai. Ou motetim. Ouais, exact. Ou motetim, et donc bien entendu, ensuite on suce le sang. Velotanit, donc ça c'est permis pendant Shabbat, tout ça c'est permis. Velotanit malea ispelanit, on a le droit de mettre dessus ispelanit. C'est quoi ispelanit? Ispelanit c'est un mot en grec, qui veut dire un pansement. C'est pas un pansement, c'est, vous savez les... Oui c'est un pansement, ouais.
Et gaz, non?
C'est pas...
Une empreinte.
C'est pas un pansement, c'est quand quelqu'un il se casse le pied en lui, qu'est-ce qu'on lui met? On lui met un...
La selle.
Non, c'est du pansement.
Bon, c'est du pansement, d'accord. Le principe du pansement, mais il y a un autre mot, bon, je préfère me rappeler.
Un plaque?
Bon, ispelanit, c'est un mot en grec qui veut dire...
Ouais, bah oui.
Non, ça sert à rien. C'est un pansement. Vekamon. Et du cumin. Pourquoi du cumin, hein? Du cumin, hein, parce que quand on met du cumin sur la mila, ça guérit tout de suite. C'est-à-dire, ça guérit, le sang arrête de couler.
Ah, c'est
sympa. Bon, d'accord. C'est... Seulement, attention, il faut moudre le cumin avant Shabbat.
Mais oui.
Ça, c'est clair. Parce qu'on aurait pu le faire avant Shabbat. Im lo shachak me'erev Shabbat. S'il n'a pas moulu le cumin, me'erev Shabbat avant le Shabbat, L'Oez Beshinab, il le mord dans ses dents. Donc il prend, il mord la graine du cumin dans ses dents, Venoten, et il pose sur la Mila. D'accord ? Ça veut dire qu'il a le droit de le faire.
Ah, correct.
Mon moyen.
Je vais voir son ami PSNF.
Ah, Perpignan. Ouais. Ça, c'est lui un grand bonjour de ma part.
Le bonjour au Perpignan aussi.
C'est l'élève du Rafa Forter, le lieu français avec les fleurs.
Alors, donc, Im lo shachak me Rav Shabbat, s'il n'a pas moulu avant Shabbat, l'Oez Beshina Venoten, donc il mord dans ses dents, Venoten, ça veut dire que c'est permis. Le cumin c'est permis, mais seulement il faut faire avec un chinouille. Un chinouille, c'est-à-dire je prends, au lieu de le faire avec l'outil, avec le moulin, je le fais avec mes dents. Im lo taraf yain vashemen nerav Shabbat. Alors, autre chose aussi, ils avaient l'habitude de mélanger, je sais pas si on a l'habitude encore aujourd'hui, je crois pas qu'on a l'habitude de ça, ils avaient l'habitude de mélanger du vin et de l'huile sur, et de les mettre sur l'endroit de la Mila. C'était pour accélérer la guérison. Du vin et de l'huile, un mélange de vin et d'huile. Parce que ça donne comme truc, mais bon.
Que c'était pour désinfecter.
Alors, la Rachid dit, c'était le Shem Refoua. C'est pour guérison. Alors, si lui, si Robert Samuel, il sait que c'est pour désinfecter...
Non, parce qu'il faut se rappeler une chose. C'est que le vin de l'époque, c'est pas le vin qu'on boit aujourd'hui. Le vin de l'époque, c'était 40 degrés.
C'est de l'alcool, ouais.
Bon. Donc, ça désinfecte.
Et pourquoi de l'huile?
Parce que l'huile, ça empêche que le tissu soit attaqué. L'huile,
c'est d'accord. De l'huile. Donc, c'est pas pour désinfecter. D'accord, bon.
Le vin alors, pour désinfecter, l'huile pour...
Non,
pour
c'est mélangé. C'était bon. Ouais. Alors, donc ça aussi, il fallait le préparer, ce mélange-là, il fallait le préparer avant Shabbat. D'accord. Ce mélange-là, il fallait le préparer, le mélange de vin et d'huile. Il fallait le préparer avant Shabbat. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de créer un médicament. Et ça, dans notre cas ici, c'est un médicament. Ça devient un médicament. Shabbat, on n'a pas le droit de faire un médicament. C'est interdit par les Chachamim. Donc, on n'a pas le droit de les mélanger pendant Shabbat, puisqu'on va les prendre en tant que médicament. Seulement quoi? Inatan zebeatmo ve zebeatmo. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une assiette et on met de l'huile, d'accord, d'un côté, et de l'autre côté de l'huile, de l'autre côté de l'assiette, on met du vin. Maintenant, c'est du liquide, ils vont se mélanger. D'accord? C'est pour ça que qu'est-ce qu'il dit le Meiri? Le Meiri explique, il dit si ils se mélangent. C'est pas notre problème. Nous, parce que l'interdiction c'est de créer un médicament. Moi j'ai pas créé un médicament. Moi j'ai mis dans une assiette, j'ai mis d'un côté de l'huile, d'un côté du vin. Maintenant, comme ils sont liquides, ils sont mélangés. Bon. C'est pas mon problème. Im nitarvu, nitarvu. Comme ça, il dit, mais s'ils sont mélangés, ils sont mélangés. Et donc, bien entendu, après, on prend cette assiette, on met son roi de la Mila. Ven osinla chalouk le chatrila. D'accord? Alors, il y avait un chalouk, c'était comme une sorte de revêtement. D'accord? Comme traduit ici. Donc, chalouk en hébreu moderne aussi aujourd'hui, chalouk, c'est une chemise de nuit ou un vêtement. D'accord? Donc, il faisait comme une sorte de vêtement. De vêtements et de revêtements qu'on mettait sur l'endroit de la Mila pour éviter que la peau va recouvrir l'endroit de la Mila. D'accord? Donc ils avaient un système comme ça d'ustensiles qu'ils faisaient. Alors ça, il fallait le préparer avant Shabbat parce qu'il fallait un travail, il fallait coudre, etc. Ça se faisait pas comme ça. Donc, ven le sinla chalouk le chatrila, on n'a pas le droit de faire ça, le chatrila, on n'a pas le droit de le faire. Ça veut dire, on n'a pas interdit de le faire pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu es en train de créer un ustensile. Et c'est pas aval, mais si on n'a pas eu le temps de faire ça avant Shabbat, c'est ce tissu-là. Korech alei smartout, on va mettre autour de la Mila smartout un tissu. Donc c'est le printemps. Aujourd'hui aussi ils font ça. À part le pansement, ils mettent un tissu. D'accord. Donc aujourd'hui ils mettent des compresses autour de la Mila. C'est ça qu'ils font les moellim aujourd'hui. Enfin de ce que j'ai vu. Je vois pas souvent la Mila, ça me dégoûte un petit peu, mais de ce que du peu que j'ai vu, je vois qu'on met des. On met des compresses, ils mettent des compresses autour de la Mila, ouais. Et après ces compresses-là, on met un pansement tout autour. Pourquoi? À quoi sert ces compresses? Le concept des compresses, c'est ce qu'on vient de dire ici. C'est pour éviter que la peau...
Elle va vouloir repousser...
Tout de suite, elle repousse. Si on la bloque, on a un... Oui, bien sûr. Si on la bloque, on a... Pas repousser, elle va vouloir se refermer. D'accord. Parce qu'on ouvre, elle va vouloir se refermer.
Elle n'est pas d'accord.
D'ailleurs, c'est pour ça que le moelle, il repasse des fois, et des fois, il doit...
Ah, moi j'ai jamais vu une
Non, c'est pas mis là, bon, mais taille. Retouche.
Une retouche, j'ai pas vu.
D'accord.
Parfois j'ai vu des glands, il est resté un quart d'heure dessus et le gosse en train d'hurler, je te dis pas.
Ah, voilà, c'est mûchement.
C'est terrible.
C'est terrible, je regarde pas. Imlo etkin mi'erev Shabbat, korech aletzbaou mi'vi. Maintenant, Si maintenant, il n'a pas amené de tissu, il n'a pas de tissu ici. Le seul tissu qu'il a, il est chez lui à la maison. D'accord ? Donc il a envie d'amener le tissu. Comment il peut faire ? Le Moël a oublié d'amener le tissu. Donc, mais il en a chez lui à la maison. Il a envie de l'amener parce qu'il en a besoin de ce tissu-là pour l'amener là. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, technique. Korech Aletzbao Mevi. Il met ce tissu-là sur son doigt. D'accord ? Ou Mevi et il l'amène. D'accord ? Même si ce n'est pas un vêtement, mais le fait qu'il l'a pris en tant que vêtement, c'est bon. Dans ce cas-là, c'est permis. Va filo mechatsar acheret, et même s'il amène d'une autre cour, ça veut dire que même s'il amène carrément du domaine public, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est comme ça que le commentaire explique. Donc ça c'est pour la Mila. Donc qu'est-ce qu'on a appris dans la deuxième Mishnah? On a appris que, dans la première Mishnah, on a appris que tout ce qu'on peut faire avant Shabbat, il faut le faire. Dans la deuxième Mishnah, on a appris que, a priori, on n'a pratiquement rien qui a été interdit, là, à part moudre le cumin, et bon, et préparer l'ustensile particulier pour qu'on mette sur le revêtement particulier qu'on mettait sur la Mila. Bon, bah à part ça, tout est permis. Ensuite, Mahritim et Takatan, Mishnah Gimel. On lave le petit. D'accord ? On lave le petit, donc le petit. Alors, Ben Lifna Mila, Ben Lachara Mila. Que ce soit avant la Mila, que ce soit après la Mila. D'accord ? Bien entendu, quand on dit laver, c'est-à-dire laver à l'eau chaude. Laver à l'eau chaude, quand Alors, explique la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Explique la Gemara comme ça. Avant la Mila, étant donné que l'enfant n'est pas en danger, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour lui. C'est-à-dire que si j'ai de l'eau chaude dans mon concours, j'ai le droit de le laver à l'eau chaude. Mais j'ai pas le droit de chauffer de l'eau. Mais après la Mila, comme l'enfant est considéré en danger, d'accord, on a même le droit de chauffer de l'eau pour l'enfant. Si on l'a pas fait avant.
Évidemment.
Ça veut dire qu'en d'autres termes, aujourd'hui, d'accord, bien entendu, on fait le minimum d'interdiction possible. Donc si j'ai de l'eau prête, tant mieux. J'ai de l'eau prête dans mon koum-koum, tant mieux. Mais si je n'ai plus d'eau dans mon koum-koum, j'ai le droit d'allumer l'eau chaude sans problème. J'allume l'eau chaude et je lave avec. C'est permis. Enfin, il n'y a aucun problème. Parce que l'enfant est considéré qu'il en sakana maintenant. Ou mes alphines à lave bayad. Et comment on le lave? D'accord? Par contre, il y a une différence quand même. C'est que quand on le lave, on fait attention. C'est qu'on le lave pas comme d'habitude. On le lave pas comme d'habitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on jette l'eau sur lui avec notre main. D'accord? C'est pas que normalement comment on lave quelqu'un, hein. On le met en dessous du robinet, d'accord, et bon, il se lave, c'est tout. Ou du robinet, ou bien on verse sur lui. Là, c'est différent. On fait verser de l'eau, et avec la main, donc, mais pas sur l'enfant, on fait verser de l'eau juste à côté, et avec la main, on pousse cette eau sur l'enfant. Bon, c'est une autre technique pour chinouille, d'accord, pour faire un chinouille. Voilà, pourquoi? Pour montrer qu'on le fait vraiment parce qu'on n'a pas le choix, et parce que c'est une sakana.
Pour montrer, normalement, il n'y a que le bébé et la maman, là. Bon. Ça va pas que tu le vis là. Viens voir, je donne 100 bains.
Avalo Bakli. Alors, Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, Rabbi Eliezer ben Azariah dit, Machitim Atakatan Bayam Hashelishi. Il dit également, on peut laver le petit le troisième jour de la Mila. Par exemple, si on a fait la Mila mercredi, est-ce que Shabbat on a le droit de le laver? Alors lui, il dit qu'il y a une permission spéciale pour le troisième jour. Pourquoi? Chez Neymar, comme c'est écrit, chez Khaled de Shabbat, chez Neymar, comme c'est écrit, Bayi Bayam Hashelishi Biyotam Koavim. Parce que c'est écrit, et ce fut le troisième jour, Biyotam Koavim, quand il était souffrant, quand il était plaignant. D'accord?
On parle des enfants de...
On parle de l'histoire de Shreb. D'accord?
La ville.
Et alors, donc on a vu là-bas que le troisième jour, c'est le jour qui fait le plus mal.
On l'a vu dans
Vaïra aussi. On avait expliqué quand on avait fait le cours de Rachid, c'était Marloket. On a expliqué que c'est Marloket entre Rachid dans l'Agmara et Rachid dans le Chumash. Est-ce que le jour qui est le plus souffrant, c'est le troisième jour ou le deuxième jour? Bon, quoi qu'il en soit. En tout cas, et d'ailleurs, dans le cours qu'on avait fait, on avait ramené aussi cet élément-là qui écrit que ceux qui disent que c'est le troisième jour qui fait le plus mal, ils disent voilà, c'est écrit le troisième jour quand il avait mal. Les autres, bon, les autres répondent sur ça. Alors, donc, de là on apprend, c'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Azariah dit, de là on apprend que le troisième jour, ils ont très mal, c'est-à-dire c'est un danger. Et puisque c'est un danger, on peut le laver. D'accord? Très bien. Donc, et là, l'alakha est comme lui. Donc on a le droit de chauffer de l'eau. Ça veut dire que le troisième jour, si j'ai pas d'eau à la maison, j'ai le droit d'allumer l'eau chaude pour le petit.
Pourtant, il n'y a pas de danger.
Si. Troisième jour. C'est ça qu'on a expliqué.
Par rapport à un bain qui va le laver.
Si.
C'est un soin. C'est pas un lavement.
Quand on dit le laver, quand il y a un relais chez Yeshbosakana, quand on a un malade qui est en danger, on a le droit de tout faire pour lui. On a le droit de lui préparer à manger. On a le droit de le laver, on a le droit de tout faire. Parce que ça va, parce que le fait qu'on va le laver, grâce à ça, il ira mieux. Donc c'est permis.
C'est un confort, c'est pas un...
Non, ça va plus.
C'est pas un confort.
Ça. Mais ça touche pas la santé de le laver.
Ok, ça peut le mettre...
Si, ça désinfecte, ça rafraîchit, parce qu'il a peut-être de la fièvre.
Quand c'est un cholé chez Hbosakana, quand c'est un malade qui est en danger, on a le droit de faire même quelque chose qui est semi-confort. C'est pas du confort, hein.
C'est du confort normal, s'il n'est pas...
C'est pas
s'il
du
a
confort,
rien.
Non, mais...
On peut appeler ça du confort.
Non, je comprends la question qu'il dit.
Moi aussi.
Si je vous explique, c'est cholé chez Hbosakana, quand c'est un malade qui est en danger, il repousse toutes les mises de la Torah. Même si c'est pour un semi-confort. C'est pas que c'est un confort à 100% parce que là ça pose problème. Mais là c'est un semi-confort.
Bon, allume-moi la télé.
Parce que l'enfant, comment dire ça, l'enfant, le fait de le laver, ça va accélérer sa guérison. D'accord, le laver avec l'eau chaude. Se laver pas avec l'eau froide, avec l'eau chaude, etc.
Prends le Mikvé là, casse la glace.
Ouais, je comprends votre question. Ça rentre dans la catégorie des semi-conforts. Confort complet, c'est interdit. Voilà, comme il y a des négociations de plus, si l'enfant te dit allume-moi la télé, ça tu lui allumes pas. Par contre, lui,
ça va le guérir. Il va le sentir encore mieux. Un bon désanimé.
Si, par contre, le médecin, il te dit, s'il est à l'hôpital et que le médecin, il dit, écoutez, il faut occuper votre enfant et qu'on n'arrive pas à occuper l'enfant. Il dit, écoutez, il faut occuper l'enfant, il faut mettre l'anesthésie. Voilà. Et l'enfant, on n'arrive pas à le calmer. D'accord. Quand c'est un cholé chez Hbosakana, quand on n'a pas le choix, on peut allumer la télé pour lui.
Ah ouais. L'effet sera supérieur.
J'espère qu'il y a d'autres jeux que la télé. Non, mais pour dire, c'est permis.
Supérieur que le...
Puis on peut allumer la PlayStation.
Que le bain, quoi. Ouais.
Alors, aujourd'hui, c'est fini, hein, tout ça. Safek Van Droginos. Maintenant, si on a un enfant qui est Safek. Alors, c'est quoi un Safek? C'est quoi un enfant qui a un doute? Ça veut dire quoi? Alors, il y a plusieurs commentaires qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire un doute. Donc, je vais vous amener un peu plus. Je vais vous amener un peu tous. Donc, le commentaire de Rachid. Rachid explique comme ça. Il dit que, il explique comme ça, on a un principe qui arrive dans la Gemara, qu'un enfant qui naît à 7 mois, c'est un enfant normalement qui va tenir. Un enfant qui naît à 9 mois, bien entendu, c'est un enfant qui va tenir aussi. Mais quand on est à 8 mois, les médecins le disent aujourd'hui aussi, quand un enfant naît à 8 mois, là c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que quand un enfant naît à 7 mois, donc il n'est pas rentré dans une certaine phase de finition du corps. Donc cette phase-là, elle peut se faire une fois qu'il est sorti. Mais quand il naît pendant 8 mois, quand l'enfant va sortir du ventre de sa mère en plein milieu de cette phase de finition, c'est dangereux. Bon, aujourd'hui, au Khachan, les médecins, ils savent... Mais c'est très dangereux. Les médecins aujourd'hui, je me rappelle, quand j'étais parti avec ma femme chez le gynécologue, le médecin, je lui ai parlé, le médecin m'a dit aujourd'hui, les médecins, ils disent comme ça aussi. Ils disent que 8e mois, c'est dangereux. 8e mois, c'est 7e mois, c'est pas dangereux. 9e, c'est un médecin religieux. Il m'a dit qu'aujourd'hui, les gynécologues, ils disent ça aussi, la même chose. Très bien. Alors, c'est quoi le safek? Ça fait qu'on a un doute. Le problème, il est comme ça. Un enfant qui est né le huitième mois, comme c'est un enfant qu'on ne sait pas s'il va tenir, donc on n'a pas le droit de lui faire la mila pendant Shabbat.
Il va vivre.
On ne sait pas s'il va tenir, on ne sait pas s'il va vivre. Donc on n'a pas le droit de lui faire la mila pendant Shabbat. Même si, a priori, on croit qu'il tient. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, tant qu'il n'a pas passé un mois, tant qu'il n'est pas arrivé au 9e mois, on a des statistiques et des pourcentages physiques.
S'il meurt, on devra quand même lui faire la mila. Alors?
Si quoi?
S'il meurt, on devra quand même le circoncire.
S'il meurt?
Ouais.
Du tout?
Ah oui. Un enfant qui est né et qui est mort, un petit garçon, avant de l'enterrer, on lui fait sa mila, on enlève le prépuce. C'est une halakha vieille comme le monde. Tu trouveras.
Je sais pas, j'ai entendu. Bon.
Oui, c'est pour lui enlever la honte.
Bon. Ok, possible. Ouais, j'ai compris.
Alors à partir de maintenant, si on lui enlève aussi quand il est mort, là, à plus forte raison, on peut l'enlever quand il est mort.
Non, le problème c'est qu'on peut pas transgresser Shabbat que si c'est pour un coup sûr. Parce que c'est pas une mitzvah d'enlever la mila, ça c'est clair. C'est pas une mitzvah de lui faire la mila quand il est mort, c'est sûr que non. Peut-être que bon, c'est les rachamim, je sais pas, il faut que je vérifie. Peut-être que c'est les rachamim qui ont demandé pour que les neshama, quand elles montent en eux, etc. Bon, mais c'est pas une mitzvah. La mitzvah, c'est quand il est vivant.
Oui, monsieur.
On est bien d'accord. Donc, cette mitzvah-là, on peut la faire, elle repousse le Shabbat, que si c'est un enfant qu'on est sûr qu'il va tenir. Donc c'est quoi ce safek? C'est s'il y a un enfant maintenant qu'on ne sait pas s'il est né au 8e mois ou au 7e mois. D'accord? Donc on ne sait pas, est-ce qu'on peut lui faire la mila pendant le Shabbat, on ne peut pas faire la mila pendant
le
Shabbat.
Ça, c'est... Je ne vois pas ce que ça change, que ce soit le Shabbat ou le dimanche.
Non, ça change. Disons que le médecin ait dit, on peut lui faire la mila.
On ne le fera pas parce qu'il y a un safek.
Comme c'est un safek, comme l'enfant, on n'est pas sûr qu'il veut tenir, cet enfant-là ne repousse pas le Shabbat.
Bon, pourtant, on le fera le lendemain.
Oui, c'est pas grave. Si le médecin estime que c'est bon, qu'on peut faire la mila, on fait la mila, pas de problème. D'accord? Mais un enfant comme ça ne peut pas repousser le Shabbat.
Ah, d'accord.
D'accord. Bon. Alors, ça c'est un premier commentaire de Safek. Deuxième commentaire de Safek, c'est qu'on a un doute si le jour du Samila c'est Shabbat. Par exemple, il est né un vendredi pendant le comment on dit ça, le crépuscule, non pas crépuscule, crépuscule. J'allais dire crépuscule.
C'est très crépuscule.
Non, j'allais dire crépuscule.
Ouais, c'est aussi un endroit rigolo.
Alors, crépuscule. Donc on ne sait pas s'il est né vendredi ou s'il est né Shabbat. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On attend Shabbat pour le faire la Mila. Toujours, on attend, comme on ne sait pas, la Mila, c'est le, puisque la Mila, c'est le 8e jour. Donc si on a un Safek, quel jour c'était, toujours on va au plus loin. Comme ça. Très bien. Maintenant, le problème, c'est que moi, quand je vais venir lui faire la Mila Shabbat, je ne suis pas sûr que c'était Shabbat, sa Mila. Peut-être sa Mila, c'était vendredi. Parce que Ben Hashmashot, le moment du crépuscule, c'est un moment qu'on ne sait pas de quand il fait partie. Jusqu'aujourd'hui.
Ben Hashmashot de Shabbat.
Non, ça change pas. C'est Ben Hashmashot de Shabbat. L'enfant est né vendredi. L'enfant est né vendredi pendant Ben Hashmashot, par exemple. Shabbat, à quelle heure il est rentré la semaine dernière?
Oui, mais si, il est né samedi, voilà. Ben
L'enfant, il est né à 5h15. 5h15 la semaine dernière. Vendredi dernier. 5h15, c'est Ben Hashmashot.
D'accord.
C'est un moment que les Chachamim, jusqu'aujourd'hui, ils savent pas. On ne sait pas ce qui fait partie du jour d'avant ou du jour d'après. On ne sait pas si c'est vendredi ou si c'est Shabbat. Donc par défaut, nous, on considère toujours que c'est Shabbat. Mais en vérité, c'est peut-être pas Shabbat. C'est pour ça que pendant Ben Hashmashot, par exemple, on peut demander explicitement à un goy. On demande explicitement de me faire un travail. Pourquoi? Parce que le fait même qu'on fasse Shabbat à ce moment-là, c'est une gzera des Chachamim. Parce que la Torah, on ne sait pas si c'est Shabbat ou pas. Très bien. Si l'enfant naît pendant ce moment-là, donc quand on lui fait la Mila, il est né vendredi 17h15.
Donc, on considère que c'est vendredi, c'est vendredi.
C'est vendredi, mais comme on ne sait pas si c'est vendredi, on ne peut pas faire la Mila le 7e jour. Oui. Peut-être que c'est Shabbat, donc on fait Shabbat de toutes les façons. Mais le problème, c'est que je ne peux pas faire la Mila Shabbat. Parce que peut-être qu'il était né vendredi. Et donc dans ce cas-là, sa Mila de Shabbat, s'il était né vendredi cet enfant, la Mila que j'aurais fait Shabbat, c'est une Mila qui n'est pas Pismano. C'est une Mila qui n'est pas en son temps. Et une Mila qui n'est pas en son temps ne repousse pas le Shabbat. Ça repousse le Shabbat que si c'est le 8e jour.
Bon,
donc, Safek. C'est une deuxième manière d'expliquer Safek. Donc on a deux manières d'expliquer.
Attends, mais il y a un autre problème maintenant.
Alors,
s'il est né samedi,
je conclue la mission avec Daniel. Donc Safek, pareil, non, ça n'a pas de problème, puisque comme il est né samedi Ben Hashmashot, toujours on doit aller au jour suivant. Parce que on doit aller à dimanche, donc de toute façon, sa Mila, ce sera dimanche. Parce qu'on ne peut pas faire la Mila le 7e jour. On ne peut pas prendre un doute de
le 7e jour. S'il est né samedi Ben Hashmashot, par exemple, Shabbat, ça sort à 6h, il est né à 6h moins 10.
Très bien.
D'accord, on est en plein quoi,
très bien.
On fait quand la Mila? Le dimanche d'après?
Dimanche.
Et ce sera plus le 8e jour.
Non, parce que qui vous dit? On ne sait pas si c'est...
C'est ça, donc c'est le même problème si c'est un samedi.
Non, pas grave. Dans ce cas-là, on fait le 9e. Parce qu'on peut pas prendre le risque de faire le 7e. Faire le 9e, c'est pas grave. C'est pas bismano, on n'a pas un bonus dans la mitzvah. Mais au moins, on l'a fait la mitzvah. Mais faire la Mila le 7e jour, c'est pas bon. On ne peut pas prendre le risque de faire la Mila le 7e jour.
Mais là, on devra le faire parce que ce sera le 8e ou le 9e.
Donc on fera dimanche.
Et là, c'est le 9e.
Mais non, c'est peut-être le 8e aussi. Elle va compris.
Si.
Ok, très bien. J'ai fini. Donc, Vendroginos, ainsi que le Androginos. Androginos, c'est celui qui a les signes...
Il a deux sexes.
Il a deux sexes, voilà. Le féminin masculin. En Mechalim Alavata Shabbat, on ne peut pas... Donc, tous les cas que je viens de dire maintenant, on ne peut pas transgresser le Shabbat pour eux. Rabbi Yuda Matir Bandroginos. Rabbi Yuda permet dans l'Androginos. Pourquoi il permet? Parce que lui, il dit, c'est écrit dans le verset Imol Lachem Kol Zachar. Il dit, vous ferez la Mila à tout garçon. Pourquoi tu dis tout garçon? Qu'est-ce qu'il me rajouter le mot tout? Il vient de rajouter celui qui est garçon et qui est aussi fille. Bon. Dans les faits, la halakha n'est pas comme Rabbi Yuda. On ne transgresse pas le Shabbat ni pour un androgynos, c'est un mot qui est en grec aussi en passant, ni pour un androgynos et ni pour tous les cas de doute qu'on a eu jusqu'à maintenant. Voilà, s'arrêter à Mishnah, d'aller...
C'est un gros problème ça d'ailleurs.
On continue lundi prochain.
Ah, l'androgynie...
Je sais pas, ça existe encore aujourd'hui?
Bien sûr.
Non mais c'est fréquent.
Mais bien sûr.